Bonjour les auditeurs de Radio Pont. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jérôme. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu viens pour... bien sûr, on est au mois de mars, donc c'est le printemps.
Voilà, oui, je vous ai préparé une chronique sur la thématique du printemps, puisque voilà, oui, le mois de mars, c'est vraiment les jours qui rallongent, les oiseaux qui commencent à chanter pour installer leur nid, c'est vraiment l'arrivée du printemps. On va en pouvoir en profiter, enfin, tout au long du mois.
D'accord. Donc, on va commencer par... bien sûr, les oiseaux, parce que je pense que c'est essentiel pour la nature.
Oui, c'est vrai que c'est un peu le symbole du printemps, hein, les oiseaux qui vont s'installer, qui vont installer leur nid, bah déjà chanter pour... c'est ce qui marque le printemps. Hein, les mâles vont essayer de chercher des femelles, former les couples, et puis après construire leur nid. Donc les oiseaux, en plus, c'est quelque chose qu'on voit facilement dans son jardin. Les gens, pendant l'hiver, aiment bien leur donner un peu à manger. Quand il fait froid, c'est vraiment important, puisque les oiseaux ont de moins en moins à manger dans les campagnes. Donc du coup, de leur fournir des graines de tournesol, quelques autres graines, des choses comme ça pendant l'hiver, ça leur permet de passer cette période où la nourriture se fait très rare. Et puis du coup, comme ça, arrivé au printemps, ils ont gardé un peu de force pour justement démarrer cette période où là, du coup, ils vont en avoir beaucoup besoin, parce que construire le nid, élever les jeunes, ça va leur demander beaucoup, beaucoup d'énergie.
Oui, bien sûr. Et quand ils sont contents, ils chantent.
Voilà, c'est ça, c'est le début, hein, les matins, dès que les jours sont un peu moins froids, hein, dès le matin, avec le lever du soleil, on les entend chanter, les merles, les mésanges, les bergeronnettes, un peu tous les oiseaux qu'on a autour des maisons, le rouge-gorge aussi, se mettent à chanter dès le matin pour marquer leur territoire, attirer des femelles, s'installer autour de nous.
Et on les entend aussi le soir.
Oui.
Jusqu'au coucher du soleil.
Voilà, c'est ça. Oui, ils font un peu la même chose au lever et au coucher du soleil. C'est les moments où ils aiment bien marquer leur territoire. Et donc, du coup, c'est les deux moments dans la journée où on les entend le plus.
Et il ne faut pas oublier de leur donner de l'eau aussi.
Oui, alors du coup, pendant l'hiver, on leur donne à manger. Donc ça, il va falloir arrêter petit à petit, puisque du coup, là, le printemps arrive, donc ils vont commencer à trouver de la nourriture. Alors, pendant le mois de mars, on a encore parfois des bonnes gelées, des jours bien froids. Donc là, il ne faut pas hésiter à leur redonner un petit peu de graines de tournesol, des choses comme ça. Mais dès que les températures se radoucissent, des choses comme ça, commencer à baisser les rations, puisque le but, hein, c'est avec le printemps, c'est qu'ils se débrouillent tout seuls. Hein, ce sont des animaux sauvages. Par contre, pour l'eau, ça, il ne faut pas arrêter. On peut leur fournir de l'eau toute l'année. Ça, d'avoir une petite mare dans son jardin, ou si on n'a pas de mare, on peut mettre des soucoupes remplies d'eau qu'on nettoie et qu'on re-remplit avec de l'eau propre régulièrement. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire toute l'année. C'est vraiment important l'hiver, puisque des moments, quand ils gèlent, ils n'ont pas d'autres sources liquides. Et au printemps, généralement, ils trouvent un peu plus d'eau, mais on peut continuer. Et puis, avec l'arrivée de l'été, là, du coup, les sécheresses, hein, la recherche d'eau est très compliquée. Donc là, bien faire attention, hein, pendant les périodes de sécheresse, de canicule, de fournir de l'eau aussi aux oiseaux et puis à tous les animaux du jardin. On peut mettre une soucoupe un peu en hauteur et une par terre, puisque du coup, il y a aussi les hérissons, les amphibiens. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent venir boire. Hein. Il n'y a pas que les oiseaux qui recherchent de l'eau.
Oui, bien sûr. Et pour conserver justement cette humidité, cette fraîcheur, pour la taille des haies, il est déconseillé de tailler à une certaine période ?
Alors oui, la taille des haies, là on va arriver dans la période où les haies, il faut arrêter de les tailler. Alors, les haies, ça conserve de l'humidité, les animaux viennent se cacher dedans, mais c'est aussi là, cette période de l'année, le meilleur refuge pour les oiseaux, l'endroit où ils vont installer leur nid, hein, c'est des bonnes cachettes, au milieu des feuilles, au milieu des branches, c'est vraiment là que la plupart des oiseaux vont faire leur nid, hein, les merles, des mésanges aussi, quand il y a des creux dans les troncs, des choses comme ça, les chardonnerets, enfin du coup, il y a plein d'oiseaux qui vont s'installer, et du coup, si on taille la haie à ce moment moment-là, bah forcément, on va détruire le nid ou effrayer les adultes qui vont abandonner leur nid. Donc là, ce qu'on conseille, hein, c'est vivement conseillé de ne pas tailler les haies à partir du mi-mars, fin mars. C'est vraiment la période où il y a l'installation des nids. Et après, ne pas tailler jusqu'à mi-juillet, puisque là, c'est pareil, on a différentes espèces d'oiseaux. Il y a des oiseaux aussi qui vont faire plusieurs reproductions, enfin plusieurs nichées. Et donc, du coup, ça se finit vers mi-juillet. Donc là, pendant tout le printemps, c'est vrai que souvent, on a l'habitude un peu d'entretenir ça à cette période, mais il faut essayer de décaler ça, soit à la fin de l'hiver et puis à la fin de l'été, mais essayer là de laisser les haies... sans les tailler. Alors pour les particuliers, c'est juste un conseil à faire. Et puis en milieu agricole, hein, les haies agricoles, elles, il y a vraiment des directives européennes. Il y a des aides européennes pour l'agriculture, mais en contrepartie, les agriculteurs, eux, n'ont pas le droit de tailler les haies du 15 mars au 15 juillet, justement par rapport à la reproduction des oiseaux.
Oui, et puis pour les agriculteurs, je crois que le mieux pour eux, pour définir leur terrain, c'est de mettre des haies.
Oui. Après, voilà, il y a plein de projets de plantation de haies en ce moment. Il y a le département, il y a la région finance des créations ou c'est des haies qui existaient il y a longtemps, mais voilà, oui. Elles ont disparu, donc maintenant on les recrée. Mais des plantations de haies, des choses comme ça, donc ça permet de délimiter les territoires. Ça permet de casser un peu la monotonie paysagère, hein, sur des grandes plaines où il y a rien. Du coup, des haies, ça brise le vent. C'est justement ça permet aux oiseaux et à plein d'animaux, hein, à des insectes auxiliaires des cultures, à des prédateurs qui vont aller manger par exemple les mulots dans les champs, des choses comme ça. Donc du coup, ça développe la biodiversité.
Exactement.
Et ça aide la production agricole. Hein, c'est pas... ça fait de l'ombre. Enfin, du coup, il y a plein d'avantages à avoir des haies autour des champs.
Ouais, et ça garde l'humidité aussi de la terre.
Oui. Alors, ça évite les vents, le vent qui peut assécher la terre. Les racines des arbres, des arbustes de la haie vont remonter un petit peu de l'humidité des profondeurs et distribuer ça en surface par le système racinaire. Enfin, il y a vraiment plein d'avantages. Et puis... du coup, pour ces, je voulais aussi rappeler, hein, que, alors pour les particuliers, que tailler les haies, du coup, on peut le faire l'hiver, après à la fin de l'été, à l'automne. Et par contre, hein, après, qu'est-ce qu'on fait de cette taille de haies ? Alors, c'était déjà interdit, hein, de brûler les branches, les déchets verts dans son jardin, mais depuis 2020, ça a été renforcé, cette interdiction. Et maintenant, on risque quand même une amende de 450 €, hein, qui peut être donné par la police municipale, par les agents communaux, le maire, des choses comme ça. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Il faut rappeler que le brûlage des déchets verts est interdit dans les jardins. Et par contre, après, il y a plein d'autres solutions. Hein. On peut amener déjà ces déchets verts à la déchetterie. Hein. Il y a des bacs spéciaux qui vont permettre ensuite de transformer ces déchets verts en compost. Donc ça, c'est de la matière organique qui n'est pas perdue, mais qui va être réutilisée après comme engrais. On peut le faire chez soi directement. Si on a un broyeur, on peut louer aussi des broyeurs. Il y a aussi maintenant des groupements un peu dans les lotissements, des choses comme ça, des quartiers qui achètent un broyeur en commun ou des mairies qui en achètent en commun et qui permettent après de broyer ces déchets verts avec. Et puis on peut utiliser aussi les branches pour faire des palisses, hein, des palissades. Du coup, moi, j'en ai réalisé quelques-unes. Hein. On plante des piquets espacés de 30-40 cm. Et en fait, entre ces piquets, on fait deux rangées de piquets espacées de 40 cm. Et entre les piquets, on va mettre toutes les branches, on tassant bien. Et du coup, ça donne une sorte de murette, mais en bois sec. Et ça va... ça permet... On peut faire une haie avec. Et puis, ça permet aux insectes, aux animaux, aux oiseaux de pouvoir s'y cacher, aux hérissons de faire un nid à l'intérieur. Donc, du coup, ça permet aussi, si on n'a pas de broyeur et qu'on veut faire une sorte de petite palisse, on peut le faire aussi... avec le reste des tailles de haies. Et puis après, si on a un broyeur, le paillage, hein, c'est idéal pour maintenir l'humidité dans le jardin, pour apporter de la matière organique. On peut pailler aussi les petits chemins, les petites allées dans le jardin. On peut faire vraiment plein de choses avec le paillage, hein, le broyage de bois broyé. Donc il faut en profiter.
Donc, pour la taille des haies, rien n'est perdu.
Non, voilà, c'est ça. Au lieu de le brûler et de perdre tout ça, en plus de faire de la fumée pour les voisins, pour la pollution aussi, parce que du coup, si tout le monde brûle, c'est pas très agréable après quand il y a des feux autour de chez soi tout le temps. Mais voilà, au lieu de perdre ça, de le brûler, c'est brûler, c'est gaspiller, du coup, là, on va pouvoir le réutiliser et garder cette matière organique.
Ah, bien sûr, après les palisses... Les haies, on va passer à la pelouse.
Oui, c'est aussi le printemps, le démarrage des tondeuses. Alors, le but, ce n'est pas d'arrêter de tondre. Hein. C'est toujours agréable d'avoir une plate-bande chez soi pour les enfants, même pour soi, pour s'installer, pour jouer dans son jardin. Mais ces pelouses, on le voit. Hein. Du coup, comme c'est coupé régulièrement, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de... Même les pâquerettes, des choses comme ça, c'est quand on passe la tondeuse toutes les semaines, tous les 15 jours, les fleurs n'ont pas le temps de monter, de se développer. Et du coup, ces pelouses, elles ne sont pas très, très riches pour les insectes. Et aujourd'hui, les insectes, on s'aperçoit qu'il y en a de moins en moins qui sont vraiment utiles, surtout les insectes pollinisateurs, mais tous les insectes, tous les autres aussi. Et pour préserver ces insectes pollinisateurs, dont font partie les abeilles, et on entend les apiculteurs aussi parfois en difficulté avec des abeilles qui ne trouvent pas de nectar, de pollen pour nourrir, déjà pour se nourrir elles-mêmes et puis ensuite pour fabriquer du miel. Et donc pour ça, il suffit d'essayer de garder dans son jardin une petite partie, soit le long d'une haie, dans un endroit où on ne veut pas forcément aller tout le temps, on n'a pas besoin d'avoir cette partie tondue tout le temps. Donc on la laisse tranquille, un petit peu en jachère. Et on la tondra qu'une fois les fleurs fanées. Et dans cette partie-là, du coup, on aura justement des pissenlits, des pâquerettes, d'autres, du trèfle, des choses comme ça qui vont fleurir. Et toutes ces plantes-là, justement, c'est des fleurs qui sont très, très riches en nectar et en pollen et qui vont permettre aux abeilles de trouver de la nourriture, aux insectes pollinisateurs. Et c'est vraiment important puisque aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, pour ces insectes pollinisateurs, ce qu'on appelle des famines de printemps. C'est-à-dire que pendant l'hiver, à la fin de l'hiver, les insectes vont sortir d'hibernation. Ils peuvent trouver un champ de colza, des choses comme ça, des plantes à butiner assez tôt dans la saison. Et puis, par exemple, après le colza, ils vont plus avoir grand-chose à butiner. Et s'ils trouvent pas des plantes sauvages ou dans des jardins à butiner, en fait, tout le colza qu'ils ont pu récolter, déjà, ils vont le consommer. Donc, pour l'apiculteur, par exemple, il ne va pas pouvoir récolter grand-chose. Et en plus, ils peuvent aussi vraiment tout consommer jusqu'au point où, en fait, ils n'ont plus de réserve. Et là, du coup, quand ils n'ont plus de réserve, ils peuvent mourir de faim. Donc, il y a des colonies d'abeilles entières qui meurent comme ça. Et si les abeilles meurent, il faut imaginer que les abeilles sauvages, des papillons, les bourdons, on ne les voit pas mourir, eux. Parce que du coup, ils sont dispersés un peu dans la nature, mais il leur arrive exactement la même chose. Donc, si on veut préserver ces insectes, il faut penser à leur laisser quelques fleurs pour qu'ils puissent butiner tout au long du printemps jusqu'à l'été.
Oui. Donc, dans le jardin, vous laissez un petit endroit pour les volatiles, pour les animaux, insectes.
Voilà, ça va servir à plein de choses.
Et ça ne prend pas beaucoup de place.
Non, il n'y a pas besoin de laisser beaucoup de place. Vous essayez de voir dans le jardin déjà un endroit qui ne vous gêne pas trop, un endroit où on voit qu'il y a déjà quand même quelques plantes qui vont se développer, des feuilles de pissenlit, des pâquerettes, des choses comme ça. Et cet endroit, on le laisse. Alors, le but, ce n'est pas que ça devienne une friche avec de la broussaille et tout ça. Après, on peut... Dès que ces fleurs ont fané à la fin de l'été, on peut tout à fait les tondre et tout ça pour maintenir un endroit assez ras. Mais au printemps, essayer de les laisser fleurir au moins au printemps. Et on peut même passer un coup de tondeuse si on veut à la fin du printemps. Mais il y a des périodes dans l'année où c'est bien de laisser ces fleurs s'épanouir.
Donc maintenant, on va essayer de préserver l'eau, ce qui est difficile en ce moment.
Voilà, cette année, on démarre l'année vraiment d'une manière assez compliquée, on va dire. On a eu un été très, très sec en 2022. L'automne qui n'a pas été forcément très humide. Après, pareil, un hiver où on a battu le record de jours sans pluie. Hein. On a eu 30 jours de jours sans pluie. Donc, bah, c'est la période normalement où il pleut et les nappes phréatiques se rechargent. Donc là, bah, on en est au point que les nappes phréatiques, alors qu'elles devraient être rechargées, elles sont toujours très, très basses. Et donc là, bah, si on veut... anticiper au maximum et limiter peut-être une sécheresse. Alors, on a toujours l'espoir que la fin du printemps, le début de l'été, il y a un peu de pluie, même si pour nous, ce n'est pas forcément ce qu'on attend le mieux. Mais bon, en tous les cas, pour l'environnement et puis pour notre ressource en eau, ça sera important quand même qu'il pleuve. Mais voilà, il ne faut pas attendre ça et se dire, bah, voilà, il va pleuvoir et puis ça ira. Il faut anticiper et donc dès aujourd'hui, hein, commencer à limiter nos usages de l'eau, hein. Prévoir de pas gaspiller l'eau, de garder des ressources. Alors après, on peut le faire à petite échelle dans son jardin, avoir une petite mare, avoir quelques points d'eau, on le disait tout à l'heure, hein, pour que les animaux puissent continuer à trouver de l'eau. Mais après, c'est vrai que cette ressource en eau, hein, ça se fait avec des politiques générales, hein, à l'échelle de grandes communes, de communautés de communes, du département. Et là, du coup, bah, l'enjeu, c'est de préserver les zones humides, hein, tout ce qui va être marais, marécages, étangs, des choses comme ça. Puisque dans ces zones-là, bah, quand il pleut, le sol va s'engorger d'eau et va restituer lentement cette eau aux rivières, aux ruisseaux, aux sources. Voilà, donc c'est des véritables éponges. Donc c'est ces milieux-là qu'il faut préserver au maximum, hein, pour faire des sortes de réserves d'eau naturelle. Et puis ensuite, bah, du coup, essayer aussi au niveau des rivières, des captages, bien prévoir, hein, le partage de l'eau. On en entend beaucoup parler aujourd'hui avec des problèmes qu'on voit arriver, hein, les méga-bassines, des choses comme ça. Et bah, ça, ce partage de l'eau, il va se poser c'est un problème qui va se poser de plus en plus. Donc essayer de ne bah, de pas aller dans des conflits et au contraire, réfléchir ensemble à comment on partager l'eau, comment la préserver, voilà, comment et anticiper ce qu'il faut. Oui. Aujourd'hui, on le voit bien, de toute façon, pour l'été prochain, bon, j'espère qu'on va avoir de la pluie, tout ça, mais on sait très bien que dans les années qui viennent, les 10, 15, 20 ans qui arrivent, bah, l'eau va être de plus en plus une denrée rare. Et du coup, c'est aujourd'hui qu'il faut prévoir, bah, justement, préserver ces zones humides pour faire des éponges, pour faire des réserves. Et puis aussi, au niveau de la région, hein, des cultures, essayer de voir des cultures moins gourmandes en eau, des cultures qui vont plutôt être utiliser les pluies du printemps quand il y en a. Ben après, on peut pas, mais voilà, en espérant qu'il y ait quand même il pleuve au printemps. Et c'est vrai que les cultures qui ont besoin de beaucoup d'eau l'été, ben, ça va devenir problématique. Donc après, il faut anticiper et puis trouver d'autres manières d'utiliser l'eau, enfin, dans tous les cas, d'avoir ses besoins d'eau. Alors, je parle de l'agriculture, mais on a sur la côte, hein, vers Royan, l'île d'Oléron, l'île de Ré, tout ça, eux, ils ont l'agriculture aussi, hein, dans ces zones-là, mais ils ont aussi beaucoup, beaucoup de tourisme l'été. Et là, ils ont un double problème, puisque le tourisme consomme aussi beaucoup d'eau. Et donc, c'est comment avoir cette eau disponible l'été, alors que c'est le moment où on a les nappes phréatiques qui baissent. Donc, c'est aussi travailler sur un tourisme plus durable, avec moins de consommation d'eau. Alors du coup, il y a des campings qui font des efforts, il y a plein de choses à mettre en place. On a encore le temps, ça devient urgent, mais on n'est pas non plus au cœur du problème, et il ne faut pas attendre encore 5 ou 10 ans, où là vraiment on commencera peut-être à avoir des gros problèmes. Il faut anticiper, et en anticipant, bah, du coup on s'y prépare et on aura moins de... ça sera un choc moins brutal. Mais en tous les cas, voilà, il ne faut pas se dire, il ne faut pas se voiler la face, se dire qu'il y aura de l'eau, et non. Il y aura de moins en moins d'eau. Ça, c'est quelque chose maintenant dont on voit déjà les premiers effets. Donc, il faut s'y préparer.
Oui. Et puis, l'eau, on ne la fabrique pas.
Non, bah non, voilà, l'eau, elle tombe du ciel. Quand elle tombe du ciel, bah, du coup, voilà, le meilleur moyen de la garder, c'est les zones humides, c'est la pénétration dans le sol pour qu'elle rejoigne les nappes phréatiques. Et après, bah, les grandes réserves d'eau, hein, c'est les nappes phréatiques, toutes ces tourbières, ces étangs, on appelle ça les têtes de bassin, c'est le haut des rivières qui doivent se charger en eau. Et ensuite, ces réserves d'eau naturelles qui sont en haut des rivières, bah, petit à petit, vont s'écouler pendant l'été et fournir de l'eau ici à la Seine, mais à la Charente, enfin voilà, tout ça. Donc C'est sur ce système global, c'est pour ça que c'est, ça doit être réfléchi à grande échelle. Hein. Ce n'est pas juste un petit coin à préserver, c'est vraiment à l'échelle globale de toutes les rivières qu'il faut réfléchir à ça. Et puis, après, à son échelle, par contre, on peut justement travailler, anticiper ça donc, dans son jardin. Donc, c'est pour ça que je disais, je voulais parler aussi de ce qu'on appelle les jardins de biodiversité. Donc là, c'est comment faire un jardin qui va concilier tout ça. Donc, dans son jardin, on peut continuer, bien sûr, et il faut le faire. Hein, c'est vraiment toujours sympa. Et puis, ça permet d'avoir des légumes pendant tout l'été. Donc, faire un potager, des fruits, des choses comme ça, plein de choses dans son jardin. Et en même temps, essayer de concilier ça avec la biodiversité. Donc, on peut aussi... dans le jardin, planter des fleurs pour les insectes. Il y a la phacélie, hein, qui est une plante aujourd'hui très facile à trouver, qui est utilisée dans les jachères fleuries, mais qu'on peut mettre un petit peu dans son jardin et qui va permettre aux abeilles d'avoir pas mal de nectar. Ces plantes-là, souvent aussi, elles vont capter l'azote. Ça fait des bons engrais verts. Donc, une fois que la fleur est fanée, surtout, on ne l'arrache pas et on ne la jette pas plus loin. Au contraire, on peut la couper ou la laisser sécher. Et elle va se décomposer lentement dans le jardin. Et elle va apporter un engrais naturel, donc du coup on les utilise, elles vont enrichir le sol. On peut prévoir aussi au printemps là des petits abris pour les hérissons, pour les insectes, les amphibiens. Tous ces animaux, dès que la nuit arrive, ils vont sortir de leur cachette et aller manger des limaces, des insectes dans le jardin. Donc ça permet de limiter ces petites bêtes qu'on n'aime pas trop au jardin. Donc du coup le hérisson, il va passer sa nuit à chasser les limaces et les escargots dans le jardin, donc il va vous débarrasser de tout ça tranquillement, sans pesticides et sans effort pour vous, donc il faut en profiter. Et puis ça fait aussi c'est tout ce qu'on peut mettre dans le jardin, ça fait un peu d'ombre, ça permet à la terre de moins sécher, d'apporter je vous le disais tout à l'heure, d'apporter un peu des engrais naturels. Et puis pensez aussi à l'eau, hein, à l'eau au jardin. Donc on peut prévoir des récupérateurs d'eau de pluie, on peut couvrir le sol aussi, hein, pailler le sol, ça évite vraiment que la terre se dessèche. Donc si vous mettez de la paille, des restes de tonte de jardin, tout ce qu'on disait tout à l'heure, le broyat des haies, des choses comme ça qu'on aura mis de côté, quand on paille le sol, hein, quand on met tout ça à la surface du sol, ça va éviter que la terre se dessèche et vous allez voir que vous n'allez pas être obligé d'arroser votre jardin tous les 2-3 jours, mais qu'un arrosage toutes les semaines ou même tous les 15 jours, hein, ça suffit. La terre reste humide quand elle est bien couverte et du coup les plantes vont aussi en profiter. Donc c'est tout bénef, hein, pour le jardin, d'essayer de concilier, hein, cette biodiversité et puis le jardinage, hein, pour avoir des légumes et des fruits de son jardin.
Et puis donc, un jardin comme ça, c'est agréable aussi.
Oui, et puis aussi au niveau de l'aspect esthétique. On met des fleurs, quand on essaie aussi de faire un jardin avec des petits carrés, de diversifier, on va avoir plein de couleurs, plein d'aspects, plein de choses différentes. Et puis du coup, on va pas avoir un morceau du jardin complètement défriché à un moment si on disperse un petit peu les plantes. Donc une fois qu'on a ramassé les haricots, il y aura autre chose. Et puis on peut associer. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de... Si vous allez sur Internet ou dans les petits livres, hein, il y a plein d'associations possibles entre les plantes. Il y a aussi des associations qu'il faut... Alors, c'est pas qu'il faut pas les faire, mais en tous les cas, il y a des légumes qui s'aiment pas trop entre eux. Donc
n'hésitez
pas,
quoi.
Ils vont moins bien pousser, donc oui. Il y a des légumes qui vont se céder, on va dire, mutuellement, mais il y en a d'autres qui s'aiment pas trop, donc n'hésitez pas à consulter, hein, les sites internet, les petits bouquins, puisque pour essayer d'avoir aussi un jardin qui produit de la nourriture et qui n'est pas juste esthétique.
Et puis c'est agréable d'avoir des produits du jardin.
Oui, on sait ce qu'on mange, on est content de les avoir produits. Quand on
a
des enfants, ils sont contents aussi de manger les légumes qu'ils ont fait pousser. S'il y a des enfants qui n'aiment pas trop les légumes, quand c'est eux qui les ont fait pousser, ça les motive un peu plus à les cuisiner, à les manger. Donc il faut vraiment en profiter.
Et puis pour les abeilles et tous les insectes, c'est très bien aussi.
Oui, bah oui, oui, voilà, c'est vraiment l'idéal hein, pour les insectes pollinisateurs. Hein. Ils vont, eux, polliniser vos plantes, hein, les fraises, les tomates, par exemple. Bah, du coup, s'il n'y a pas d'insectes, bah, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de fraises. Hein. Il faut que les fleurs soient pollinisées. Et en même temps, bah, les insectes, ça va leur fournir du pollen, du nectar pour qu'ils continuent à se développer. Donc, puis c'est pas assez sympa aussi d'attirer les papillons dans son jardin. On en a d'ailleurs déjà parlé dans des émissions précédentes, mais une chose aussi à préserver, là je repensais avec les papillons, c'est dans son jardin, dans un coin du jardin, laisser quelques orties pousser, puisque les papillons pondent principalement dans les orties. Enfin, il y a beaucoup d'espèces de papillons qui pondent dans les orties. Et si on veut des papillons dans son jardin, eh ben, il faut que les chenilles aient pu grandir, et elles grandissent principalement dans des orties. Donc, c'est pas la peine, pareil. De se dire on va se laisser envahir par les orties, pas du tout, juste un petit coin avec un tout petit bosquet d'orties, hein, ça suffit largement pour que les chenilles de papillons grignotent ça et se transforment ensuite en papillons qui eux vont venir butiner dans le jardin. Voilà, donc plein de choses à faire avec l'arrivée du printemps. Voilà, profiter de son extérieur, profiter de son jardin, profiter de la nature.
De la nature, voilà. De ses couleurs,
bah oui.
De ses champs.
Oui, on a plein de coins très très sympas. Son jardin et puis bah, les bords de Seugne.
Exactement.
Toute la région, donc voilà, c'est le moment où on peut aller en profiter.
Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter ?
Non, on a fait le tour. Alors, n'hésitez pas. Après, si vous avez des questions, justement, sur la biodiversité, des choses comme ça, on a un site internet hein, qui est environnat.fr. Donc, il y a l'email de l'association dessus. On a fait aussi un petit forum qui n'est pas trop utilisé, mais n'hésitez pas à y poser des questions. Bon, on se fera un plaisir d'aller y répondre.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est moi.
Merci. On vous souhaite une très bonne journée sur Radio Pont 97 FM. Au revoir, Jérôme.
Au revoir.